La tête dans l'étagère, une émission de critique sociale diffusée sur Radio Escapade les 1er et 3e mardis du mois de 17h à 18h. Rediffusion le vendredi à 9h30. Eh bien, bonjour tout le monde, vous êtes sur Radio Escapade. C'est l'émission La tête dans l'étagère. Pour l'émission d'aujourd'hui, nous allons avoir un entretien avec Nicolas Duvoux, qui est l'auteur du livre L'avenir confisqué, inégalité de temps vécu, classe sociale et patrimoine, qui est paru aux éditions du PUF. Nicolas Duvoux, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes prof de sociologie à l'Université de Paris 8. Et je sais que, aussi, à côté de cela, vous avez des fonctions au sein le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Je crois même que vous en êtes le président. S'il ne me trompe pas.
Absolument. Depuis juillet dernier, je suis président du CNLE, qui est donc un organisme consultatif placé auprès de la Première ministre. Voilà. Mais je vais m'exprimer aujourd'hui à titre personnel, puisque c'est bien le sociologue que vous avez invité. Et donc, le CNLE est une instance collective avec des syndicats, des associations, des personnes concernées par la pauvreté. Et donc, voilà, nous essayons d'élaborer des positions collectives sur différents sujets, et notamment, évidemment, les politiques sociales.
Et c'est un sujet qu'on va donc aborder à travers votre ouvrage très intéressant, hein, qui vous a pris une vingtaine d'années, hein, si je ne me trompe pas. Et ce qui est assez intéressant... Hein, c'est que, en fait, c'est de considérer un peu le rapport à l'avenir, hein, le sentiment de l'avenir, un peu comme une dimension majeure des inégalités sociales, à la fois comme une sorte de capital qui offre une capacité à élaborer des stratégies, par rapport à l'existence pour s'en sortir plus ou moins, mais aussi comme certaine crise d'inscription dans la société par rapport à ce qui a pu être vécu pendant les Trente Glorieuses où on se posait pas trop de questions quant au présent et surtout quant à l'avenir. Donc c'est en gros votre ouvrage il part de là. C'est assez intéressant parce que c'est pas des choses qu'on voit ou qu'on lit souvent. Et ce qui est aussi intéressant, hein, c'est que par rapport à tout ce qui est donné d'informations, de statistiques ou d'études de vie par rapport à la pauvreté, c'est un peu vous dépasser un débat un peu binaire entre économistes et sociologues. Les économistes qui vont plutôt s'appuyer sur les variables du revenu et les sociologues vont plutôt s'appuyer que sur la catégorie socioprofessionnelle, et vous appuyez un peu sur les deux à la fois, donc c'est assez intéressant, vous intéressez vraiment à la manière dont les gens y perçoivent subjectivement leurs conditions de vie, leur position sociale, tout en tenant quand même compte de la structure sociale de classe de la société, des rapports de force, donc c'est assez intéressant. Donc voilà, si vous pouvez un peu, comme ça, pour présenter votre ouvrage aux lecteurs, aux auditeurs, aux auditrices qui ne seraient pas un peu au courant de cet ouvrage intéressant.
Ben, merci, votre présentation est vraiment parfaite. Elle résume très très bien les thèses principales du livre. Mon idée, c'est effectivement qu'il y a sur les questions d'inégalité beaucoup de discours qui sont tenus aujourd'hui, beaucoup de discours notamment de la part des économistes qui ont une capacité vraiment très très grande à mesurer les phénomènes à partir, voilà, en disant quels sont les revenus des uns et des autres, quel est le patrimoine des uns et des autres. Et ces travaux d'économistes, voilà, beaucoup de gens connaissent aujourd'hui le nom de Thomas Piketty, qui est vraiment voilà, un peu un symbole de cette capacité des économistes à mesurer le monde social. À mesurer les inégalités, pardon. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de m'appuyer sur ces travaux, de m'appuyer sur tous ces savoirs qui ont été collectés pour essayer de redéployer, en quelque sorte, un regard sociologique sur les inégalités. Et ça veut dire essayer de se rapprocher vraiment de l'expérience vécue, de se rapprocher de ce qu'on pourrait appeler le ressenti, sans perdre de vue les rapports de force, tout ce que la sociologie a pu mettre au jour. Et donc, une clé de lecture qui m'est apparue particulièrement pertinente pour analyser encore une fois les inégalités, c'était de s'appuyer sur les ressources économiques, qui sont plutôt traditionnellement ce que travaillent les économistes, et puis de s'appuyer aussi sur la position socio-professionnelle, la classe sociale, pour le dire simplement. Est-ce que vous êtes cadre, est-ce que vous êtes ouvrier, est-ce que vous êtes employé, est-ce que vous êtes indépendant, qui est plutôt le travail des sociologues. Donc d'essayer de se dire, en fait, ce qui compte, c'est de cumuler ces deux types d'analyses, de les croiser pour pouvoir essayer de voir quel est le possible ou l'impossible pour les individus et se dire, voilà, en fait, ce qui fait l'inégalité pour moi, c'est la capacité plus ou moins grande selon la position sociale, selon les ressources, à se projeter dans l'avenir. Et parce que vous pouvez être dans une situation difficile à un moment donné, mais si vous avez quelque part une trajectoire qui est ascendante, qui va vers le haut, même la situation difficile, vous allez finalement arriver à vous en sortir, vous allez arriver à la gérer. Tandis que la même situation, si vous n'êtes pas en capacité de vous projeter, si vous n'avez pas quelque part un horizon, en fait, elle va être beaucoup plus difficile à vivre et vous allez en souffrir d'une manière beaucoup plus forte. Donc, c'est vraiment ça l'idée et ça rejoint un autre point que vous avez évoqué dans votre riche introduction qui est de dire, en fait, par rapport aux 30 glorieuses qu'on a souvent effectivement en ligne de mire, en perspective, dans ce débat sur les inégalités, avec souvent l'idée que les inégalités se sont beaucoup renforcées depuis les 30 glorieuses. Moi, c'est vraiment un constat, une analyse qui me semble à la fois intéressante, parce qu'il y a un certain type d'inégalité qui a augmenté, c'est les inégalités de patrimoine, et ça c'est tout à fait vrai et fondamental, et on y reviendra sans doute. Mais globalement, c'est un constat ou une analyse qui est quand même assez fragile. Et par contre, ce qui a vraiment changé, me semble-t-il, depuis les 30 Glorieuses, c'est au contraire le fait qu'il n'y a pas de croyance dans l'avenir, il n'y a pas de croyance dans l'idée que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Il y a vraiment un changement complet où à l'accroissement du sentiment de sécurité, a succédé la diffusion du sentiment d'insécurité sociale dans la population. Et donc c'est vraiment à la fois, si vous voulez, une thèse un peu disciplinaire, une manière de requalifier les inégalités en faisant travailler ensemble l'économie et la sociologie. Et puis c'est aussi une thèse sur, que je défends dans L'avenir confisqué, sur un peu l'état de la société et l'état de l'évolution de la société et les meilleurs critères pour l'appréhender.
Eh bien, on reviendra à tous ces sujets après la première pause musicale.
Tome no, tome no, 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 no
Vous êtes sur Radio Escapade, c'est l'émission La tête dans l'étagère. On vient d'écouter l'orchestre Polyrythmo de Cotonou et le titre du morceau c'est Gan Che Kpo. Eh ben, on en revient à notre entretien avec Nicolas Duvoux par rapport à son livre L'avenir confisqué. Et oui, on était par rapport, on avait évoqué donc ce sentiment donc d'insécurité sociale. Et par rapport à ça, hein, ce qu'on peut en dire, c'est que le sentiment de maîtrise sur sa vie, le sentiment de sécurité, d'insécurité sociale, ou sentiment de voilà, ou de soit de maîtrise ou de sécurité, ou à l'inverse de dépossession ou d'insécurité sociale, eh ben tout ça, ça donne un peu des indicateurs et ça donne à voir un peu la façon dont les ressources monétaires ou autres, elles sont converties en un sentiment de capacité de maîtriser l'avenir. Et vous dites aussi, faut quand même que d'autre part, par rapport à tout ce qui est inégalité sociale, structure de classe, que souligner la permanence des clivages de classe de la société, ça revient pas à penser à penser tout ça comme des groupes socio-professionnels homogènes, mais c'est un peu plus compliqué que ça et qu'il faut voir un peu comment ça se passe autant au niveau de ce qu'on appelle et les classes populaires au pluriel et les classes moyennes aussi au pluriel, puisque c'est pas très homogène. Et ce qui est assez intéressant par rapport à ça, c'est ce qui a pu se passer pendant ce qu'on appelait le mouvement des Gilets jaunes, qui a pu être assez éclairant par rapport à ce qui a pu être la mesure économique et statistique de la pauvreté que ne pouvaient pas voir donc les autorités et qui n'ont pas pu déceler ce mouvement-là, puisque c'était des sentiments de déprise sur le temps ou de pauvreté qui étaient un peu invisibles au vu des statistiques, tant pour certaines catégories des classes moyennes que des catégories des classes populaires qu'on peut appeler stabilisées. Et aussi, ça amène à voir tout ce qui s'est passé depuis les années strangleuses jusqu'à maintenant par rapport à ce qu'on peut appeler en général le système de protection sociale au sens large ou par rapport à ce qu'on peut appeler les budgets contraints et d'autres, etc., etc. Parce que il y a quelques années, on a fait des entretiens avec Jeanne Lazarus sur les politiques de l'argent et aussi d'autres auteurs qui parlent de ça. On avait évoqué les travaux d'Anna Perrin-Heredia que vous évoquiez dans votre ouvrage aussi, qui sont assez intéressants et qui nous éclairent aussi sur ce que c'est au quotidien que toutes ces choses-là. Donc je ne sais pas si vous pouvez en faire état. J'ai fait un peu un pot-pourri de ça. C'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus... Mais j'ai fait un peu un petit résumé de ces choses-là qui sont quand même assez intéressantes à évoquer, qui ne sont pas trop évoquées dans le débat public.
Oui, absolument. Ben merci, vous avez dit beaucoup de choses. Je vais repartir du cas concret des Gilets jaunes, puisque vous m'y invitez, parce qu'effectivement, ça a été alors à la fois évidemment une explosion de colère sociale tout à fait inédite hein, par son ampleur et par ses formes aussi, ses manifestations. Donc il n'y a aucun doute qu'on a là dans ce mouvement un révélateur de choses qui se passaient de manière un peu plus silencieuse, un peu plus diffuse dans la société française depuis plusieurs années, voire plusieurs décennies. Et effectivement, un mouvement qui ne passait pas par les canaux traditionnels des syndicats, comme on a pu le voir sur le mouvement contre la réforme des retraites au printemps dernier, par exemple, où là, bon, les syndicats étaient présents, ils étaient dans l'organisation, ils tenaient le mouvement en quelque sorte globalement. Et les Gilets jaunes, ça a été vraiment, on va dire, un moment de convergence entre des groupes assez disparates, assez désunis, Et donc, on pouvait trouver sur les ronds-points des mères de famille, des personnes voilà, qui notamment avaient des questions de handicap dans leur entourage, qui en souffrent, hein, parce que c'est évidemment beaucoup de difficultés au quotidien quand il n'y a pas l'accompagnement, les services publics qui vont avec. Des retraités, des petits retraités, des indépendants, des commerçants, des artisans, puis aussi des ouvriers, des employés, bref, toute une constellation populaire, hein, issue des catégories populaires, mais qui agrégeait des individus, des groupes qui n'étaient pas réunis par une inscription professionnelle ou autre chose. Et effectivement, il y a un article qu'on avait écrit avec un collègue qui s'appelle Adrien Papuchon, qui à la même époque en fait avait identifié vraiment qui se sent pauvre en France. Il s'était posé la question de manière un peu naïve ou faussement naïve, qui se sent pauvre en France, et en se disant il y a peut-être là quelque chose où le sentiment de pauvreté va nous donner des éléments de compréhension de ce qui s'est passé sur les ronds-points. Pourquoi ? Parce qu'on voyait émerger dans nos statistiques, en identifiant un groupe ou un sous-groupe de gens qui se disent pauvres, en fait, un petit peu la constellation qui a émergé sur les ronds-points. Et donc, on s'est dit, il y a là quelque chose de très, très intéressant, c'est que ce qui unit, ce qui relie ces groupes, qui n'ont pas de point commun par ailleurs, c'est la perception dégradée de son propre avenir. Et à partir de là, on a commencé à travailler un peu sérieusement sur des situations de gens qui sont un peu comme vous l'avez dit, sous les radars de l'attention publique, qui ne sont pas forcément pauvres, ou qui sont pauvres mais qui ont des caractéristiques un peu particulières, par exemple d'être isolés socialement. Voilà, quand vous êtes pauvre monétairement, vous ne vous sentez pas forcément pauvre. Mais par contre, si vous êtes pauvre monétairement et que vous êtes isolé socialement, là, vous vous sentez pauvre. Et donc, il y a quand même des enjeux très, très, très importants derrière. Et je dirais qu'on a vu émerger, du coup, cette constellation dans nos chiffres. Et ça nous a vraiment convaincus dans l'idée que le ressenti, que le sentiment de pauvreté était donc le sentiment d'insécurité sociale, en l'occurrence, était vraiment quelque chose qui permet d'avoir une vision plus nette des inégalités sociales. Et là, si vous voulez, ça a été un peu le départ qui a permis de se dire, en fait, il y a d'autres démarches, et vous l'avez évoqué aussi à votre manière, la question traitée par Pierre Blavier dans son remarquable ouvrage sur les Gilets jaunes, la révolte des budgets contraints. En fait, c'est vraiment l'idée que la contrainte, c'est quelque chose qui, du point de vue statistique, va essayer de rapprocher la mesure objective du ressenti. Et donc, on a là quand même quelque chose qui converge avec la démarche qu'on a fait et qui invite à saisir effectivement à l'intérieur des catégories populaires des situations de difficultés particulières. Je prends juste un exemple, si vous permettez très rapidement, mais pour illustrer ça. Globalement, dans la société française, les retraités sont plutôt plus privilégiés que les actifs, hein. Les retraités sont très largement sortis de la pauvreté et il faut vraiment s'en réjouir. C'est l'effet des retraites obligatoires qui ont vraiment sorti les retraités de la pauvreté depuis un demi-siècle, et on doit tous s'en réjouir. Mais par contre, y a des situations de gens qui sont retraités et qui se disent pauvres. Et là, c'est très intéressant parce qu'on voit effectivement que ce ne sont pas n'importe quel retraité. C'est par exemple les retraités qui sont locataires de leur logement, qui ne sont pas propriétaires. Et donc, on a des gens qui ont des difficultés particulières parce qu'ils ont, des charges qui augmentent, ils ont des difficultés et des pensions qui n'augmentent pas. Et donc, en fait, pour ces personnes, en fait, voilà, l'avenir n'est plus appréhendé que sous la modalité de la dégradation, du pessimisme, ce qu'on comprend parfaitement, mais qui nous donne une information particulièrement pertinente et utile, encore une fois, pour affiner un petit peu la mesure qu'on a des inégalités.
Et ça, ce qui est assez intéressant d'une part, Par rapport aussi d'autre part, ce qui est aussi, ce que, ce qui était aussi intéressant, c'était, j'avais évoqué hein, brièvement, quelqu'un qui avait fait des... C'était assez intéressant, c'était une ethnographie des budgets des familles. C'était dans le Grand Est de la France. Ça s'appelait Anna Perrin Heredia. Elle a fait un travail vraiment passionnant et innovant au long cours en dressant un inventaire détaillé des ressources des familles des classes populaires, mais en analysant vraiment toutes les petites différences qu'ils n'ont pas forcément, mais qui tracent des frontières symboliques au sein même des classes sociales. Et ce qui est assez intéressant, je crois que vous notez même dans votre livre, c'est qu'il faut quand même prendre au sérieux toutes ces petites choses invisibles qui donnent lieu à des petites distinctions qui sont susceptibles de développer des frontières symboliques et sociales hein, entre ceux qui sont, entre guillemets, capables de tenir leur budget et donc un peu qu'ils ont contraint aussi par certaines normes institutionnelles, politiques et autres. Hein, on se rappelle un peu notre entretien avec Jeanne Lazaru sur les politiques de l'argent, c'était ce qu'elle disait. Et une frontière avec ceux qui, entre guillemets, se laisseraient aller, avec toutes les connotations morales qui sont associées au terme de se laisser aller, qui seraient donc un peu stigmatisées et qui renvoient aussi un peu dans le stigmate à ce qu'on peut appeler les assistés et ce qu'on voit aussi à l'œuvre un peu derrière ce qui se passe en ce moment par rapport à, par exemple, une loi qui vient d'être votée par rapport à la réforme du service public de l'emploi à travers le France Travail. Et derrière tout ça, il y a quand même un discours sur l'assistanat comme cancer social qui est un peu développé autant par beaucoup de forces de politique, hein, que ça va de leur invoquer jusqu'à maintenant, on veut dire que c'est partagé par une large partie du spectre politique qui encourage ou un sentiment anti-assisté qui est très développé dans le corps social et qui trace un peu des frontières entre des gens qui seraient un peu sur un même niveau de vie, plus ou moins niveau de vie, mais qui auraient des petites différences au niveau de l'insécurité sociale, des uns qui sont un petit peu plus en insécurité sociale que d'autres. Et c'est un peu là que se dressent les peut-être nouvelles petites frontières symboliques et sociales. On a pu parler de triangulation de la conscience politique des classes populaires. Beaucoup d'auteurs de sciences sociales ont travaillé là-dessus. C'est quand même aussi assez intéressant quand même de s'y attarder parce que ça parle quand même de quelque chose qui est vraiment parlant au sein de la société et qui peut être une sorte de voile quand même sur la réalité sociale et sur tout ce qui se passe dans la société. C'est quand même assez intéressant d'en parler parce qu'on en s'est pas trop évoqué aussi dans le débat public.
Bah, oui, vous avez raison, le débat public, il a cette fâcheuse tendance, je dirais, pour m'exprimer simplement, à renvoyer une représentation extrêmement caricaturale des groupes sociaux en général. Ça peut être le cas pour les riches, qu'on va prendre comme un ensemble très homogène, ou pour les pauvres. Et ça vaut, là pour le coup, pour le sociologue, pour le chercheur, l'enjeu c'est de complexifier et de trouver des instruments d'analyse qui permettent d'aller un peu au-delà de ces représentations très, très stéréotypées, très caricaturales, très homogénéisantes, c'est quoi le terme essentialisantes, qui vont essayer de trouver, voilà, les riches ils sont comme ça, les pauvres ils sont comme ça, les classes moyennes elles sont comme ça, etc. Moi l'idée est vraiment complètement différente, c'est de dire, en fait, à l'intérieur de chacun de ces groupes, sans nier absolument en aucune manière les écarts entre eux, je pense qu'il y a matière et méthode à explorer les petites différences qui font que, même si, je veux dire, vu de l'extérieur, les situations ont l'air de se ressembler, en réalité, en fait, elles sont très différentes parce que le rapport à l'avenir, assis sur les ressources, est très différent. Et là, vous citez ma collègue Anna Perrin-Heredia, que j'apprécie beaucoup, dont j'apprécie beaucoup le travail, plutôt parce que c'est vraiment quelque chose, elle compare des budgets, comme vous l'avez dit, de femmes qui vivent dans la banlieue de Reims, et elle se dit, bon, mais voilà, en fait, on a des gens qui ont des ressources qui se ressemblent beaucoup et qui ne vivent pas du tout les choses de la même manière. Et elle dit, en fait, si on arrive à se rendre attentif aux petites différences dans le niveau des revenus, dans la stabilité des revenus, dans la trajectoire sociale, eh ben on va voir qu'ils ne sont pas du tout dans les mêmes perspectives, et c'est ça qui est intéressant sociologiquement, c'est ça qui est décisif dans l'analyse. Et on pourrait vraiment transposer, en tout cas moi j'essaye de le faire, la réflexion sur les catégories les plus favorisées, les riches, qui sont aussi souvent perçus comme un monde social extrêmement homogène, de gens qui contrôlent la société, etc., ce qui n'est pas faux, encore une fois, et j'essaie de donner des éléments pour montrer comment la société, de fait, est maîtrisée par ces groupes. Et je dirais que là, il y a un effort à faire aussi. Alors, on est aidé là aussi par Thomas Piketty, qui a montré que, bon, qui a dit, il le dit très fortement, il a vraiment totalement raison, il dit, en fait, dans le 1% le plus riche de la population, Il y a des écarts énormes entre les individus parce que, voilà, si vous avez 2 millions, 3 millions d'euros de patrimoine, ou si vous en avez 30 millions, ou si vous en avez 300 millions, en fait, ben, ce n'est pas du tout le même monde, ce n'est pas la même vie, ce n'est pas les mêmes capacités. Et je crois qu'il a complètement raison de le souligner, et donc je pense qu'il faut faire le même effort de distinction, d'illustration et d'analyse des petites différences qui sont un peu moins petites dans ces étages-là de la société, mais disons il faut porter la même attention aux différences à l'intérieur du monde des riches qu'il faut la porter à l'intérieur du monde des pauvres. Et parce que sur le monde des pauvres, j'y reviens, des catégories populaires, il y a effectivement des enjeux très très forts parce que dans notre société, aujourd'hui, on peut dire la respectabilité, la dignité est une ressource extrêmement rare, extrêmement convoitée. Tout le monde entend toute la journée qu'il faut aller travailler. Et donc, évidemment, il n'y a quand même pas de travail pour tout le monde. Donc à un moment donné, il faut parvenir à construire ou à maintenir sa dignité dans ce monde-là. Et à partir de là, je dirais que adhérer à un discours un peu de culpabilisation, de stigmatisation des assistés, c'est quelque chose qui peut être utile, qui peut être efficace, y compris pour les gens qui sont eux-mêmes en situation de pauvreté. Et donc là-dessus, il faut vraiment être très très vigilant, je dirais même très méfiant, par rapport à l'idée que, ces petites différences, elles comptent. Et elle compte dans le destin individuel, mais elle compte aussi dans le destin collectif des classes populaires, pour le dire très simplement.
Eh bien, on va faire une nouvelle pause musicale.
Thank you.
Vous êtes sur Radio Escapade, c'est l'émission La Tête dans l'étagère. On écoute toujours l'orchestre Polyrythmo de Cotonou. Et le titre du morceau, c'est Aouli Vouyeli. Eh bien, on poursuit notre entretien avec Nicolas Duvoux par rapport à son livre L'Avenir confisqué. Et oui, on avait évoqué donc la figure de Thomas Piketty qui travaille beaucoup sur les inégalités donc de patrimoine par rapport au patrimoine et à la propriété. Et par rapport à ça, hein, ce qu'on peut en dire, c'est que la repatrimonialisation des sociétés européennes et donc françaises nourrit un peu les écarts qu'on peut mesurer entre groupes sociaux, entre classes sociales, et que ça contribue à laisser de côté toutes les catégories qui n'ont pas pu avoir accès à la propriété. Bon, on a pu parler de l'avènement d'une classe moyenne patrimoniale qui il y avait quand même une large part de la population, et ce patrimoine, quelque part, il fonctionne un peu comme un capital quand la hausse des inégalités de revenus depuis la fin des Trente Glorieuses, depuis les années 70, elle est accrue par le poids de la propriété, parce que ce qu'on peut dire, c'est que c'est un des postes où de la vie sociale pour laquelle l'écart est le plus fort, parce que c'est une sorte de forte tension qui se noue autour de cet accès, parce que ça structure un avenir qui s'est refermé brutalement. En même temps, c'est un avenir qui s'est refermé brutalement, en même temps qui a été érigé en norme pendant les Trente Glorieuses. Donc du coup, ça crée aussi dans la société, pour ceux qui n'ont pas d'accès au patrimoine, une certaine forme d'insécurité sociale. Et d'autre part, ce qui est aussi important à dire, c'est que ça compte d'autant plus qu'après toute cette période donc des Trente Glorieuses où l'accès à la propriété pour de larges fractions des classes populaires, ça peut être une forme propriété sociale, d'extension d'une forme de protection sociale, et que par rapport à la mise à mal du système de protection sociale généralisée depuis quelques années, c'est quelque chose qui est quand même très marquant, ces inégalités de patrimoine. Donc je ne sais pas si vous pourrez aussi un peu développer là-dessus.
Ah oui, quand on regarde les choses avec le point de vue simplement économique, on voit déjà, et c'est un point de repère très important qu'il faut toujours garder à l'esprit, qu'on voit déjà que le patrimoine est beaucoup plus inégalitairement distribué que les revenus. C'est-à-dire, quand plus une société va donner du poids au patrimoine, et plus elle va être inégalitaire. Ça, c'est presque une déduction mathématique. Et donc, il faut avoir à l'esprit qu'on vit dans une société qui, par rapport à celle des Trente Glorieuses, redonne un poids très important au patrimoine. Et donc, ça, c'est un élément du contexte contemporain qu'il faut avoir à l'esprit. Si on veut un tout petit peu comprendre ce qui se joue, il faut voir aussi que ce patrimoine est un patrimoine qui est de plus en plus hérité. C'est-à-dire que c'est un patrimoine qui est de plus en plus transmis par la famille et de moins en moins gagné par ses propres moyens. Et donc ça, y compris d'un point de vue des libéraux, ça justifierait une forte taxation sur le patrimoine, parce que comme il est hérité, il n'est pas légitime d'un point de vue entrepreneurial, d'un point de vue de dynamisme, d'innovation économique, quoi, pour le dire simplement. Donc ça, c'est un point tout à fait décisif. Et je pense qu'il faut aussi avoir à l'esprit que ce patrimoine, il va, et vous l'avez dit de manière très très juste, il va pouvoir jouer comme un capital, il va pouvoir peser dans les rapports sociaux. Et donc, le livre défend l'idée que ce qui compte dans le patrimoine, c'est pas tellement le volume. Ben oui, il y en a qui ont plus de patrimoine que d'autres, d'accord. Mais en fait, ce qui compte, c'est que le patrimoine permet d'exercer du pouvoir dans la société. Elle permet d'exercer du pouvoir sur d'autres. Elle permet d'exercer du pouvoir parce qu'on maîtrise son propre temps quand on a du patrimoine. Et puis, elle permet aussi de maîtriser le temps des autres, d'acheter le temps des autres en quelque sorte. Et donc, ça c'est très important parce que ça structure les rapports sociaux. Et donc c'est vraiment l'idée d'analyser encore une fois les relations de classe, d'analyser les relations de classe au sein de la société. Et ça, ben, c'est quelque chose qu'on doit passer par la question du patrimoine quand on veut faire ça, parce que c'est elle qui est la plus décisive, la plus centrale, la plus structurante des rapports sociaux inégalitaires. C'est pour ça que j'ai vraiment, moi, tenu à mettre ça très fortement en avant dans l'analyse.
Ce qui est aussi faut quand même noter, il y a quelques petites limites quand même à l'analyse de Thomas Piketty, c'est que lui il voyait l'héritage comme une prérogative exclusive, donc l'apanage seulement des riches, alors que vos données, vous avez travaillé aussi avec Catherine Papuchon là-dessus sur une enquête, vous dites dans votre ouvrage, et ça montre une réalité un peu plus complexe, et que ça ne peut pas se limiter à une opposition ultra-privilégiée et d'une part, vaste classe moyenne patrimoniale d'autre part, et classe populaire démunie d'autre part, et que c'est un peu plus compliqué que ça, et que voilà, qu'il faut faire attention à justement pas trop englober les choses derrière des données statistiques, mais qui peuvent empêcher de voir certaines choses. On peut l'appliquer à certains économistes. Même si les travaux de Piketty, comme un Piketty, sont intéressants, on pourrait aussi lui appliquer ça. Voilà, il y a quand même faire aussi attention à quelques raccourcis, et c'est assez bien que vous le faites dans votre ouvrage, je trouve.
Absolument. Bah, c'est toute l'idée, c'est de montrer à la fois ce qu'il a apporté à l'analyse et à la fois ce qu'il n'arrive pas totalement à faire. Alors, moi, le point le plus important, c'est de dire qu'il n'arrive pas à articuler la mesure des inégalités. Et puis, l'expérience vécue qui en est faite. Et sur la question que vous faites apparaître là, ben en fait, du coup, le fait qu'il y a des catégories populaires pour qui un petit patrimoine compte, un petit peu comme Alain Perrin-Hérédia nous dit, il y a des petits revenus qui comptent pour les ménages. Et donc, moi, je pense que c'est très, très important, parce que ça veut dire que, en fait, ça a des effets politiques. Même si les gens dans les catégories populaires ont des patrimoines qui sont en valeur relative plus petits que les catégories supérieures, en fait, c'est des patrimoines auxquels les gens sont très attachés. Et c'est pour ça qu'ils sont contre les droits de succession, même si on pourrait penser que globalement, ils en seraient des bénéficiaires. Donc, je dirais qu'il y a des enjeux de méthode, des enjeux de description, des enjeux d'analyse, qui sont très importants. Et donc vous avez tout à fait raison de souligner que moi je mets en avant des écarts par rapport à cette analyse de Piketty. Alors après, Piketty, c'est aussi quelqu'un qui intervient dans le débat public et qui met l'accent sur les super riches, sur les très riches, les hauts patrimoines. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces données, parce que c'est quelqu'un, voilà, pour le coup, de très très honnête intellectuellement, ça, il n'y a aucune discussion là-dessus, ces données, en fait, montrent autre chose. Ces données montrent que, en fait, y a une relative démocratisation de la propriété, qu'il se joue des choses en termes de correction des inégalités par cette relative démocratisation au XXe siècle, qu'en même temps, les inégalités de patrimoine redeviennent tout à fait centrales. Donc, en fait, j'allais dire, il fait lui-même une partie du chemin de la critique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de mettre de la dynamique, en fait, dans ces analyses, qui en manquent, je trouve, qui sont un peu statiques, et de remettre de la dynamique, de remettre du sentiment d'insécurité dans des analyses qui sont, encore une fois, indispensables, mais qui manquent de sociologie, pour dire simplement, je m'excuse d'être un peu corporatiste d'un point de vue disciplinaire, mais en même temps, c'est important de dire que voilà, tout se limite pas à l'économie, même si elle apporte énormément d'informations et de compréhension du monde social.
Et ben on va faire la dernière pause musicale. Vous êtes sur Radio Escapade, c'est l'émission de la tête dans l'étagère. On écoute toujours l'orchestre Polyrythmo de Cotonou et le titre du morceau c'est C-Ba-O. Eh bien, on va finir notre entretien avec Nicolas Duvoux autour de son ouvrage « L'avenir confisqué ». Et on va examiner la dernière partie de l'ouvrage consacrée un peu au thème de la philanthropie. Ça résonne un peu avec des questions d'actualité hein, par rapport à ce qu'on a pu entendre dans les débats par rapport, par exemple, au fameux chèque de la famille Arnaud au restaurant du cœur. Et ce qu'on peut dire donc par rapport à la philanthropie, donc c'est plutôt les classes supérieures, c'est que le renouveau de la philanthropie, hein, même au niveau mondial, pas qu'en France, c'est un des plus puissants marqueurs de la hausse des inégalités, que vous dites un peu en introduction, hein, dans le prolongement des mutations du capitalisme, hein, par exemple finance, nouvelles technologies, etc., etc., à une échelle telle que les plus grandes fondations, elles ont des ressources qui leur permettent de prendre des décisions qui ont quasiment les mêmes effets que celles d'un État pour des millions de gens. Or, les dirigeants des fondations, de ces philanthropes, eh ben, ils ont le compte à rendre devant aucune population. Donc voilà, c'est un peu un petit hiatus. Et donc, à travers cette philanthropie, hein, la générosité elle est de plus en plus sélective socialement. Et elle dépend donc des grandes fortunes. Donc, ce n'est pas que les petits dons, quelques euros qu'on donne par-ci, par-là. C'est plutôt ce qu'on voit, c'est les grandes fondations. C'est un peu que pignon sur rue sur la philanthropie. Et que voilà. Et ça, c'est pas mal pour faire. Mais que d'autre part, il faut que... vous avez quand même enquêté sur, fait des enquêtes d'entretien avec plusieurs gens qui ont des grandes fondations, et pour voir aussi quand même un peu certaines complexités qu'il y a autour d'eux, que ce n'est pas vraiment un seul bloc des très riches qui utiliserait l'argent que pour des motifs d'intérêt personnel, mais que c'est dans des motifs cohérents à la fois. D'un certain catholicisme qui se serait sécularisé, mais aussi des modes de cohérence pour des choix familiaux de transmettre du patrimoine dans la derrière la famille et de réunir la famille derrière ses fondations et aussi d'intervenir dans une maîtrise des choix collectifs qui appartiendraient à ces grandes fondations. Il y a beaucoup de choses qui sont à prendre en compte là-dedans et ça serait intéressant que vous développiez là-dessus, parce que vous avez un point de vue assez original sur la question.
Ouais, merci. Ouais, effectivement, il y a, dans l'analyse du livre, l'idée, c'est vraiment de traverser l'espace social en se disant qu'est-ce que le subjectif peut nous apprendre. Alors, sur la pauvreté, on en a parlé, la pauvreté ressentie. Sur les classes moyennes, c'est vraiment la question du patrimoine hein, que je traite avec mon collègue Adrien Papuchon. Et puis, dans le haut de l'espace social, l'idée, c'est effectivement de se saisir de la philanthropie comme un peu d'un marqueur des inégalités. Vous l'avez dit, pour les raisons que vous avez rappelées, le pouvoir social, hein, souvent un peu méconnu des philanthropes, en tout cas en France. Et je dirais que, en fait, mon analyse consiste à essayer de saisir la position sociale des riches, en tout cas des différentes catégories qu'on va trouver parmi les plus riches, à travers la philanthropie, parce que ce sont des groupes sociaux qui sont relativement discrets, mais qui par contre parlent beaucoup, disent beaucoup de choses d'eux-mêmes à travers la philanthropie. Et donc c'est aussi une manière d'accéder à des espaces sociaux et de montrer comment devenir philanthrope, finalement, c'est aussi une manière de changer de statut, de faire un bond, de franchir un seuil à l'intérieur même des catégories dominantes, et de s'élever en quelque sorte statutairement, de gagner en prestige. Même si on dépense de l'argent, on gagne quelque part autre chose, on gagne du prestige, et on gagne sur tout un ensemble d'autres dimensions. Donc c'était vraiment de dire, voilà, attention, quand on s'intéresse aux riches, On a parfois l'idée que, ben, une fois qu'ils ont gagné de l'argent, ils s'en vont, ils partent de la société, et c'est pas vrai du tout. Ils reviennent vers la société à travers différents mécanismes, ça peut être la prise de contrôle des médias, ça peut être autre chose. Moi, je m'intéresse à un des aspects de ces dynamiques, et c'est la philanthropie. Et elle m'intéresse parce que, en fait, effectivement, vous l'avez dit, c'est aussi une manière d'exprimer des valeurs religieuses, des valeurs morales. Et je crois que les philanthropes, en tout cas moi c'est un point sur lequel je suis absolument convaincu, sont des gens très très sincères dans leur démarche. C'est pas du tout là pour le coup de la recherche de prestige public ou d'image médiatique, c'est pas ça du tout l'idée. Et par contre c'est des gens qui mettent voilà des ressources, des capitaux sociaux au service de leur engagement. Et ce faisant, en fait, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils vont croiser trois types, entre guillemets, de bénéfices, des bénéfices personnels, de satisfaction, parce qu'ils mettent leur argent en cohérence avec leurs valeurs. Et ça, c'est évidemment quelque chose qui procure une forme de satisfaction, alors quelle que soit la manière, par ailleurs, dont on l'exprime. Ce sont des gens qui, par ailleurs, vont transmettre ces valeurs à leurs enfants à travers leur fondation philanthropique, et ça c'est vraiment quelque chose aussi qui importe beaucoup pour ces personnes, hein, c'est d'arriver à impliquer leurs enfants. Et puis je dirais dernière chose, ben, en fait on fait des choses pour soi, on fait des choses pour sa famille, et à travers ça en fait ben, on contribue à cadrer des choix collectifs, on exerce une forme, bah encore une fois, de pouvoir social. Pouvoir social, moi je ne remets pas du tout en cause la légitimité de la philanthropie, ce n'est pas le sujet. Je dis juste qu'il y a un hiatus, comme vous l'avez dit, entre le fait de prendre des décisions qui concernent la société et le fait de ne pas être élu. Et donc ce hiatus, il faut essayer de l'analyser, il faut montrer comment la philanthropie est un des lieux où s'exerce du pouvoir, où s'exerce de l'influence, sans aucune, encore une fois, connotation péjorative. Il n'y a pas de plan caché, il n'y a pas de manipulation ou de complot, mais au contraire, tout ça est très très public, mais de dire, ben voilà, c'est des choses qu'il faut prendre au sérieux, parce qu'en France, on a l'impression un peu que la philanthropie, c'est soit aux États-Unis, soit dans les pays en développement, pour faire simple, et je pense que non, et effectivement, ben, l'épisode du chèque donné par Bernard Arnault, au Resto du Cœur, ou la famille Arnault plutôt, au Resto du Cœur, ben, nous a montré que ça s'est passé aussi en France et que du coup il fallait réfléchir à ça de manière un peu sérieuse.
Oui, le seul les problèmes quand même qui pourraient questionner, que vous le dites assez bien, c'est qu'il faudrait quand même faire attention. Il y a parfois l'idée que, entretenue par certains, même, on va dire, par même le pouvoir public, c'est que la philanthropie devrait jouer un rôle accru. C'est très naturel qu'elle joue un rôle accru avec la hausse des inégalités et donc du fait le baisse aussi du budget de l'État et des dépenses sociales de l'État qui s'appuie aussi là-dessus. Donc le problème, c'est que le discours philanthropique, il est parfois mis au service d'une idéologie un peu, entre guillemets, anti-main gauche de l'État, particulièrement dangereuse. Et le problème aussi, c'est que le risque d'une privatisation des choix collectifs, donc où est la dimension participative et démocratique ? Il faut faire attention à ça. Et il faut faire attention aussi à ce que vous dites par rapport à aux avantages fiscaux exceptionnels par rapport qui sont octroyés à la philanthropie, c'est que ça pourrait de facto aboutir à ce que les classes populaires, les classes moyennes, elles subventionnent par leurs impôts les dons, la philanthropie des plus riches. Ça aussi, ça peut faire une nouvelle forme de confiscation du bien public, et voire même de dérives censitaires, telles qu'était le droit de vote au début de la Troisième République, au XIXe siècle. Donc il faut faire attention que la philanthropie ne pose pas de problème. Elle pose un problème démocratique dans la mesure où elle fait l'objet d'un soutien constant des pouvoirs publics. Mais quel est le rôle des pouvoirs publics par rapport à la protection sociale généralisée, voire même le budget de l'aide alimentaire etc., etc. Donc, c'est aussi à voir par rapport aux analyses d'Alexis Spire sur l'impôt. C'est aussi intéressant par rapport à ça pour quel est le rapport des citoyens à l'impôt et par rapport à la redistribution. C'est aussi intéressant par rapport à ça.
Absolument, absolument. Je partage complètement vos analyses. C'est vraiment, voilà. Encore une fois, ce livre, c'est d'abord une expression d'un souhait de se positionner d'un point de vue méthodologique et théorique. Et évidemment, derrière, il y a beaucoup de considérations politiques sur les politiques sociales, sur le rapport à l'impôt, des catégories, voilà, populaires qui ont du patrimoine, par exemple, on l'a évoqué tout à l'heure, ou évidemment de la prise de contrôle, en quelque sorte, des choix collectifs par les plus aisés, qui peut être encouragé par les pouvoirs publics eux-mêmes. Donc effectivement, derrière, c'est de se dire quel est derrière l'analyse, c'est quel est le bon critère pour faire des politiques sociales qui soient susceptibles excusez-moi l'expression, d'embarquer la société, d'embarquer notamment les catégories populaires. Voilà, c'est ça l'idée, c'est de se dire il y a là quelque chose qui menace à court ou à moyen terme notre société, si on n'y répond pas.
Oui, voilà, parce qu'on était un peu dans une actualité avec un plan pauvreté qui a quand même été présenté avec 9 mois de retard, il y a pas longtemps, hein, par la première ministre, et la plupart des associations qui travaillent sur la question, voire même ATD Quart Monde et autres, étaient assez déçus. Et par rapport à la parler de la sécurité sociale, même pour une large partie de la population, on peut parler d'insécurité alimentaire, surtout quand le pouvoir d'achat il se transforme en budget contraint. Et voilà, il va falloir quand même se poser quelques questions sur l'efficience de certaines politiques publiques en la matière.
Oui, absolument, absolument. Ben, je partage voilà, il faut se poser des questions d'efficience, mais il faut aussi prendre du recul, et puis essayer de se dire comment est-ce qu'on reconstruit aussi un horizon idéalement qui démocratise l'accès à une forme de sécurité alimentaire, sociale, en termes de logement, et puis qui permette du coup de reconstruire un petit peu les bases pour la société, sans être évidemment dans une ambition trop généralisante, mais quand même de se dire on a quelques éléments d'analyse qui nous permettent de dire des choses assez, j'espère en tout cas, assez précises, et du coup d'essayer de s'appuyer dessus pour élaborer des propositions. Mais ça, c'est pas mon rôle à moi. Ce sera peut-être au titre du CNLE plus tard. Mais en tout cas, l'enjeu dans le livre, c'était vraiment plutôt de poser un diagnostic un peu différent de ce qu'on entend d'habitude sur les inégalités.
Voilà, eh ben, on vous remercie pour cet entretien. Donc, on conseille votre livre qui s'appelle L'avenir confisqué, inégalités de temps vécu, classe sociale et patrimoine, qui est paru aux éditions du PUF. Et aussi, on rappelle à nos auditeurs qui ont peut-être la mémoire, il y a un peu plus de 3 ans déjà, c'est que vous aviez coordonné avec Cédric Lomba, qu'on avait reçu, le petit ouvrage Où va la France populaire. On avait déjà évoqué un article d'Anna Perrin-Hérédia, mais aussi d'autres articles très intéressants sur donc les classes populaires et le mode de vie des classes populaires. Voilà, eh bien, merci.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir. Bonne journée.
La tête dans l'étagère, une émission de critique sociale diffusée sur Radio Escapade les premiers et troisièmes mardis du mois de 17h à 18h. Rediffusion le vendredi à 9h30.